Bonjour et bienvenue à tous, une fois de plus dans cet amphithéâtre dont on apprécie le chauffage et la chaleur humaine. Après nous être intéressés au processus historique de la construction du confucianisme comme religion, dans l'Europe du XIXe siècle, nous avons commencé à nous demander en quoi la catégorie de religion, traduite en chinois par cette catégorie de religion traduite en chinois par le terme de zhongjiao que vous avez ici. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Décidément, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu congelé, donc que vous avez ici. Hein, donc, nous avions vu que ce terme, que ce terme était un emprunt à un néologisme japonais, mais que en réalité, il provenait sans doute du lexique bouddhique. Donc, ce terme de religion, nous sommes en droit de nous demander en quoi il n'est pas adapté au contexte confucéen, qui se définit bien plus tôt comme li jiao, hein, c'est-à-dire donc comme enseignement des rites, ou si l'on préfère, comme culture ritualiste. Donc, nous avons vu la semaine dernière que, en première approche, cette culture ritualiste se caractérise en premier lieu par son continuisme. Alors, j'emprunte ce terme au dernier ouvrage co-signé par Sébastien Biliou et Joël Toraval, Le sage et le peuple, dont j'ai parlé précédemment, qui vient donc d'être publié aux éditions du CNRS. Merci. Cette caractérisation de continuisme s'opposerait donc à la rupture qu'introduirait la catégorie de religion. Alors, rupture à tout point de vue et à tous les niveaux entre un monde du monde transcendant et un monde immanent, entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre le clérical et le laïc, entre le religieux et le séculier, etc., etc. Donc, dès que vous parlez de religion, en quelque sorte, vous introduisez donc une rupture qui n'a pas lieu d'être quand on considère donc la culture ritualiste confucéenne. Autrement dit, en fait, tous les débats qui ont lieu dans notre République et plus encore maintenant, pour les raisons que vous savez, toutes les questions qui concernent justement le processus de laïcisation, hein, tout ce que nous entendons par laïcité, tout cela, nous avons vraiment lieu de nous demander si ça peut s'appliquer justement dans le contexte ritualiste confucéen. Alors, ce qu'il faut entendre par le caractère continuiste de cette culture ritualiste, on en trouve l'explicitation dans les grands traités ritualistes qui ont été compilés à l'époque Han, c'est-à-dire donc en gros entre le IIe siècle avant et le IIe siècle de l'ère chrétienne. Et c'est-à-dire aussi au moment où se mettent en place les structures sociopolitiques d'un nouvel ordre impérial centralisé. Et nous avons consacré donc un certain nombre de cours justement à la constitution de la figure de Confucius comme emblème de ce nouvel ordre, à tel point que nous avons poussé un peu l'esprit de provocation jusqu'à nous demander si, au fond, Confucius n'était pas une invention, enfin en tant qu'emblème, en tant qu'icône, de l'instauration du premier empire centralisé sous les Han. Donc, à bien des égards, l'accent placé sur les rites et la culture ritualiste, qui se traduit par le caractère étonnamment volumineux de la plupart de ces traités, de ces compendia ritualistes, cet accent semble constituer un trait spécifique de cette période du tout début de l'ère impériale, où se fait jour le besoin d'intégrer dans une même vision unifiée tous les éléments de la vie sociale et politique. Autrement dit, le processus de centralisation politique qui se consolide sous les Han, donc pendant ces quatre siècles de la dynastie Han, donc à cheval sur le tournant de l'ère chrétienne, donc on peut dire que ce processus de centralisation politique se double d'un processus de centralisation idéologique ou d'unification idéologique en quelque sorte. Et donc on peut considérer que la mise en avant de cette culture ritualiste participe justement de cette unification idéologique. Alors, ces compendia ritualistes traitent en effet tout aussi bien des rites officiels tels que les grands sacrifices et rituels de cour que des rites domestiques tels que les rites de mariage et surtout les rites de deuil sur lesquels nous reviendrons. Et il traite également des rites de la vie individuelle et personnelle, hein, tels que les façons correctes de se comporter, de se vêtir ou de se nourrir. Et à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion porter notre attention sur le livre 10 des entretiens attribués à Confucius, donc ce le yu, comme on l'appelle en chinois, dont donc le livre 10 est entièrement consacré à des notations sur les façons correctes de se comporter, de se vêtir ou de se nourrir. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, si vous étiez déjà là, nous avons fait du chinois de manière intensive. Alors, j'espère que vous y avez survécu parce que ça va continuer aujourd'hui. Donc, le chapitre Li Yun que vous avez ici, donc l'évolution des rites, c'est un chapitre important de ce traité des rites du Li Ji. Donc ce chapitre Li Yun, à la section 3, place dans la bouche de Confucius, un propos qui fait des rites un moyen d'établir la continuité entre le cosmique, la dimension cosmique et la dimension humaine. Donc je vous rappelle ce que nous avons lu la dernière fois, c'est-à-dire donc ce dialogue entre un disciple et Krongzi, donc Maître Krong, le nom chinois de Confucius. Donc je reviens juste un instant sur cette phrase ici, donc « Fu li xian wang yi cheng tian zhi dao yi zhi ren zhi qing » Donc les li, les rites, c'est donc ce par quoi les xian wang, c'est-à-dire les rois de l'Antiquité, ont donc reçu la voix du ciel, et c'est également ce par quoi ils ont réglé les qing, les sentiments ou les émotions des humains. Donc ici, vous avez la parfaite image de cet appariement ou de ce parallélisme établi entre ciel, tien ici, et l'homme, ren. Le ciel désignant la plupart du temps donc le cours naturel des choses, et non pas donc un ciel transcendant, comme nous aurions tendance à le comprendre dans notre contexte européen. Donc cet appariement, ce parallélisme permanent entre le ciel et l'homme est tout à fait caractéristique de la cosmologie ou de ce que certains ont appelé la vision anthropocosmique. C'est un mot un peu compliqué qui veut tout simplement dire que c'est une vision qui met ensemble et en parallèle donc l'anthropos, c'est-à-dire l'humain, et le cosmique. Donc cette cosmologie qui a commencé à se formaliser vers la fin de la période pré-impériale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les royaumes combattants, aux alentours du 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, et qui a donc été prépondérante pendant toute l'époque Han, c'est-à-dire donc pendant ces deux siècles avant et ces deux siècles du début de l'ère chrétienne. Ce texte continuait en disant donc « Shi gu fu li, bi ben yu tian, yao yu di, lie yu gui shen, da yu sang ji, she yu guan hun, chao pin. » C'est-à-dire donc ici les li, les rites, sont nécessairement donc littéralement enracinés dans le ciel. Ils sont littéralement donc entremêlés dans les lignes de la terre, et ils se manifestent à travers donc les kuei et les shen, c'est-à-dire donc les démons et les esprits, autrement dit donc tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, et ils s'étendent jusqu'à toutes justement les activités rituelles sociales, c'est-à-dire donc les rites de deuil, de sacrifice, la pratique rituelle du tir à l'arc, de la conduite du char, la cérémonie de la réception de la coiffe virile, les cérémonies de mariage, et également donc les audiences de cours et les visites de cours. Donc cette phrase-là vous donne vraiment toute l'extension de l'application, du domaine d'application des rites. Et vous voyez que là, nous avons véritablement un continuum qui va du ciel et de la terre, en passant donc par les démons et les esprits, jusqu'à tout ce qui concerne donc les activités humaines. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre Li Yun, donc l'évolution des rites, à la section 21, nous avions vu la dernière fois le très remarquable continuum qui relie, donc j'ai fait exprès de disposer le texte comme ça, inutile de préciser que dans les textes anciens, vous n'avez évidemment pas de ponctuation. La ponctuation a été ajoutée dans les éditions modernes et vous n'avez pas cette disposition. Tout est en, comment dire, en scripta continua. C'est, donc vous avez tout le texte à la suite, mais je l'ai décomposé comme ça pour que vous voyez un petit peu justement cet effet de rythme et de parallélisme de la syntaxe, où vous retrouvez chaque fois cet élément-là, « way », qui, on pourrait dire, en termes grammaticaux, est une, comment dire, opère comme une copule. C'est-à-dire, donc, si vous prenez cette phrase, par exemple, la première phrase vous dit, donc, les saints ou les sages, quand ils ont établi les principes, ils ont été, enfin, ils ont nécessairement donc pris le ciel et la terre comme racine ou comme fondement. J'avais attiré votre attention la dernière fois sur la graphie de ce terme, où vous reconnaissez donc le graphème de la plante ou de l'arbre avec le trait ici en bas qui désigne donc la racine ou le fondement. Et si vous prenez ce même graphème de l'arbre ou de la plante et vous mettez ce trait-là au-dessus, du coup, vous avez donc le graphème des branches. Donc, cette opposition entre les branches et la racine est une opposition tout à fait classique dans la rhétorique ancienne. Alors, donc, vous retrouvez cet élément donc copule dans toutes les éléments de phrase, et ce continuum relie le ciel terre, le yin yang, les quatre saisons, le soleil et les étoiles, la lune, de nouveau donc les démons et les esprits, les cinq phases, ou ce qu'on a appelé plus communément les cinq éléments, j'ai pas le temps de m'y arrêter pour l'instant, les rites et le sens du juste, les sentiments ou émotions des humains, et les quatre êtres surnaturels que sont donc la licorne, le phénix, etc. Donc, vous avez ici la figuration de la parfaite intégration de l'ordre humain dans l'ordre cosmique, ou si vous préférez, une parfaite intégration des éléments à la fois naturels et surnaturels. Donc vous avez aussi bien donc les quatre saisons, le soleil, la lune, les étoiles, que donc les démons, les esprits et les êtres surnaturels. Et cette parfaite intégration, on la trouve exprimée de la manière la plus claire dans un ouvrage attribué à Xunzi, donc un penseur très important de la fin de l'Antiquité pré-impériale, qui a vécu entre les 4e et 3e siècles avant l'ère chrétienne, et qui se présente comme l'un des héritiers majeurs de l'enseignement de Confucius. Et ce Xunzi, maître Xun, on l'associe et on l'oppose très souvent à l'autre grand héritier qu'est Mengzi, maître Meng, ou plus connu en contexte européen sous sa forme latinisée de Mencius. Donc, au chapitre 17 de cet ouvrage attribué à Maître Xun, ce chapitre 17 qui est intitulé donc Du ciel, qui est consacré donc entièrement à une réflexion sur ce qu'est le ciel ou le cours naturel des choses, on trouve l'image très frappante de ce que j'ai appelé la triade cosmique, ciel, terre, homme, dans laquelle chaque élément ou chaque puissance cosmique a son rôle propre. C'est-à-dire que le ciel recouvre, la terre porte, et l'homme parachève l'œuvre cosmique du ciel-terre. Donc vous avez cette magnifique vision d'une sorte de, comment dire, d'intégration donc de ces trois puissances cosmiques, et il est tout à fait remarquable que Schunz place donc l'homme à part égale en quelque sorte avec le ciel et la terre. Comme je vous ai prévenu, nous allons de nouveau faire pas mal de chinois aujourd'hui. Alors, le chapitre débute par cette phrase « Tian xing you chang » que vous avez ici. Donc, la marche du ciel, littéralement, a sa constance. Autrement dit, donc, le cours naturel des choses est constant, et par conséquent, l'ordre humain se distingue très nettement justement de cet ordre du ciel. Et là, je saute tout un passage parce qu'il y a pas mal de références historiques et mythiques qui seraient trop longs d'expliciter, mais le texte continue dans ces termes. Gu Ming yu tian ren zhi fen ze ke wei zhi ren yi. Donc, aussi, celui qui Ming, c'est-à-dire qui est littéralement éclairé, qui comprend clairement le tian ren zhi fen, c'est-à-dire donc la démarcation entre le ciel et l'homme, celui-là, on peut dire que c'est un homme accompli. C'est-à-dire donc celui qui a compris cette démarcation entre le ciel et l'homme, celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris. J'attire votre attention au passage sur le graphisme de ce caractère composé, qui est composé donc du soleil et de la lune, et qui désigne donc la lumière en général, ou le fait d'être éclairé. Donc, vous avez ici de nouveau cet appariement entre le ciel et l'homme, dont je disais à l'instant que c'est un appariement tout à fait caractéristique de cette période, de la fin de la période pré-impériale et du début de l'ère impériale. Et ici, vous avez un mot très important dans le vocabulaire du Xunzi. Ici, donc, ce terme de fen, où vous avez ici le graphème du couteau, ici, vous avez la lame du couteau, ici, qui vous indique bien qu'il s'agit, en fait, d'une partition qui est faite par découpe, c'est-à-dire donc en utilisant une lame de couteau. Et cette démarcation, le texte l'explicite à la suite, donc « Bu wei er cheng » c'est-à-dire donc ce qui se réalise sans que on n'ait rien fait pour l'obtenir. Ce qui s'obtient sans qu'on l'ait recherché ou demandé, hein, voilà ce qui s'appelle donc l'œuvre du ciel. Autrement dit, ici, vous avez une description qui s'applique quelquefois dans d'autres textes à la voix, au Tao. Donc, c'est pour ça qu'on parle très souvent du Tian Tao ou du Tian Zhi Tao, c'est-à-dire la voix du ciel. C'est donc le cours naturel des choses, c'est-à-dire c'est précisément ce qui est décrit ici, c'est-à-dire ce qui se réalise sans qu'on ait l'impression qu'on n'ait rien fait pour que ça se passe, et ce qui s'obtient sans qu'on ait rien fait pour le rechercher, hein, autrement dit ce cours spontané naturel des choses, c'est ce qu'on appelle donc l'œuvre du ciel. Et le texte continue donc « Ru shi zhe, sui shen, qi ren bu jia lu yan, sui da, bu jia neng yan, sui jing, bu jia cha yan, fu shi zhi wei, bu yu tian zheng zhi. » Donc, ainsi, c'est-à-dire donc concernant cela, ceci, c'est-à-dire le ciel, hein, un homme, même si sa réflexion est chaîne profonde, il n'aura donc aucune prise, hein, sur justement ce domaine du ciel, même si ses capacités sont très grandes. Hein, il ne pourra pas les faire valoir donc sur le domaine du ciel, et même si sa perspicacité donc est fine, hein, il ne pourra pas l'exercer donc sur le domaine du ciel. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle, hein, ne pas rivaliser avec l'œuvre du ciel. Autrement dit, ici, Xunzi indique bien donc ce fen, cette démarcation ici, entre le domaine du ciel et le domaine de l'humain, hein, ce qui relève de l'œuvre du ciel et ce qui relève de l'activité humaine. Et c'est ici que Xunzi en arrive justement à la formulation de ce que j'appelais tout à l'heure donc la triade cosmique. Tian yu qi shi, di yu qi cai, ren yu qi zhi. Fu shi zhi wei neng can. Donc le ciel a ses saisons, la terre a ses richesses ou ses ressources, et l'homme a donc sa façon de régler les choses ou sa façon d'ordonner les choses. Nous avions vu précédemment que ce terme de zhi a d'abord un domaine d'application, on pourrait dire médical en quelque sorte, parce que zhi, c'est la façon de comment dire, maintenir en ordre et en équilibre un organisme vivant. Donc, ici, le texte conclut, c'est ce qu'on appelle, hein, la capacité de former une triade, hein, parce que ce caractère-là, vous pouvez le prononcer tsan, ou dans ce cas-là, ça veut dire donc participer. Hein, donc, on pourrait comprendre que c'est la capacité justement de ces trois puissances cosmiques de prendre part à un monde intégré, ou alors si vous le prononcez san, hein, ça veut dire donc trois, hein, donc cette capacité de former une triade. Ensuite vous retrouvez un petit peu justement cette intrication ou cette imbrication plutôt de tous les éléments, aussi bien naturels que surnaturels, dans cette triade cosmique. Vous retrouvez donc les mêmes éléments, donc Li Xing Sui Xuan. Donc les étoiles tournent en succession ordonnée. Ru Yue Di Zhao, c'est-à-dire donc le soleil et la lune brillent tour à tour. Si Shi Dai Yu, donc les quatre saisons se succèdent en bon ordre. Yin Yang Da Hua, donc le yin et le yang opèrent leur grande transformation. Feng Yu Bo Shi, le vent et la pluie se propagent partout. Et donc, Wan Wu, Ge De Qi He Yi Sheng, Ge De Qi Yang Yi Cheng. Les 10 000 êtres trouvent chacun leur he, leur harmonie pour naître, pour venir à la vie, sheng, et ils trouvent chacun donc leur yang, leur nourriture pour se réaliser ou pour se former complètement. Donc, je n'ai pas encore attiré votre attention justement sur la récurrence de cette formule Ke Wei, que vous retrouvez ici à plusieurs reprises, c'est-à-dire donc c'est ce qu'on peut appeler donc l'homme accompli, l'œuvre du ciel, la capacité de former une triade, et aussi les effets de rime ici que vous avez par exemple dans cette phrase que je viens de lire, donc Wan Wu Ge De Qi He Yi Sheng, Ge De Qi Yang Yi Cheng, donc la rime entre Sheng et Cheng. Et ensuite, vous avez cette phrase qui pourrait s'appliquer également au Tao, à la voix, donc Bu Jian Qi Shi, Jian Qi Gong, Fu Shi Zhi Wei Shen. Donc, ce processus, on ne voit pas son activité, mais on perçoit uniquement donc les résultats de cette activité invisible, et c'est ce qu'on appelle donc dimension shen, que je traduis par spirituel à défaut d'une autre traduction meilleure. Mais dès que on parle de spirituel, on a tendance dans notre contexte présent à comprendre comme introduisant justement une dimension transcendante. Or ici, Shen désigne uniquement donc le stade le plus affiné de l'énergie vitale, où justement c'est une énergie qu'on ne voit pas, qui est invisible, et pourtant on en perçoit les effets. Donc vous avez ici la formulation justement de ce que le texte appelle l'œuvre du ciel, mais ce que d'autres textes appellent la voix, le Tao. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer ici, je vois les sourcils se froncer, mais c'est au fond que cette notion très abstruse du Tao, elle correspond tout simplement donc à cette idée d'un cours naturel des choses que vous ne voyez pas agir, mais dont vous voyez simplement les effets. C'est-à-dire, vous percevez le changement des saisons, mais vous ne voyez pas comment justement on passe d'une saison à l'autre. C'est donc tout simplement cette idée qui pourrait se rattacher à une pensée naturaliste que vous avez justement dans cette notion de Tao ou de voix. Et la dernière phrase confirme donc cette idée, donc « Jie zhi qi so yi cheng, mou zhi qi wu xing, fu shi zhi wei tian gong. » Donc, tout le monde connaît ce processus à l'état cheng, c'est-à-dire réalisé, mais personne ne le connaît en tant que wuxing, sans forme. Et c'est ce qui s'appelle donc ce travail, littéralement ce travail du ciel. C'est-à-dire que, au fond, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on connaît, tout le monde a des yeux et des sens pour percevoir donc, ce qui est réalisé, mais on ne voit pas justement la part invisible de cette agir, de cette action. Et pourtant, ce n'est pas parce que ça n'a pas de forme ou que ce n'est pas visible que ça n'est pas réel. C'est ça probablement qui est assez difficile à percevoir justement pour un entendement formé dans une culture européenne, parce que en fait on a du mal à percevoir justement cette continuité entre l'invisible et le visible, parce qu'on a un peu tendance justement à introduire là aussi une rupture. Alors Schunz, tout en affirmant l'existence de la triade cosmique, insiste bien sur le fait que chaque puissance a son rôle, ou ce qu'il appelle son œuvre propre, ce qui est pour lui l'occasion d'affirmer le rôle propre à l'humain, qui ne se confond pas avec le rôle du ciel, même si Maître Schun affirme que l'œuvre de l'homme parachève l'œuvre du ciel. À partir de là, Schun se propose une conception de type quasi anthropologique de l'origine des rites. Dans le chapitre 19, qui est entièrement consacré donc aux rites, qui est intitulé Li Lun, comme de même que vous aviez Tian Lun, c'est-à-dire donc des considérations sur le ciel. Au chapitre 19, vous avez donc des considérations sur les rites. Alors, que nous dit ce texte sur les rites ? Il s'interroge donc sur l'origine des rites. La question qui est posée ici, c'est Li Qi Yu He Ye. Les rites, d'où est-ce qu'ils, littéralement, d'où est-ce qu'ils surgissent ? D'où est-ce qu'ils proviennent ? Quelle est l'origine des rites ? Yue. Alors, réponse, Ren Sheng Er You Yu. Donc, l'être humain, quand il vient à la vie, quand il naît, il a des désirs ou des besoins biologiques. Donc, l'homme, à sa naissance, a des désirs, ou il naît avec des désirs. Et donc, yu er bu de, ze bu neng wu qiu. Donc, à partir du moment où il a des désirs et qu'il n'obtient pas justement ce qu'il désire, littéralement, il ne peut pas faire autrement que de se mettre en quête justement de la satisfaction de ses désirs. Ensuite, le raisonnement continue. Donc, qiu er wu du liang fen jie, ze bu neng bu zheng. Donc, s'il se met en quête de satisfaire ses désirs, mais sans wu du liang, c'est-à-dire donc sans donner de mesure et sans fen jie, c'est-à-dire répartir des limites. Vous retrouvez ici le mot fen, le mot qui veut dire découper ou démarquer. Alors, il ne peut pas faire autrement que de entrer dans une zheng, c'est-à-dire une lutte, sous-entendue pour la survie. Et zheng ze luan, luan ze qiong. Alors à partir du moment où il y a lutte pour la survie, à ce moment-là, il y a conflit ou désordre ou chaos. Et quand il y a chaos, on aboutit donc à l'épuisement des ressources. Donc là, vous avez en quelques phrases l'analyse, donc une analyse tout à fait objective et anthropologique, donc de cette condition humaine, qui fait que il y a la reconnaissance justement de cette nécessité biologique de l'être humain, qui a des besoins ou des désirs au même titre que les animaux. Et alors justement, ce sont ces désirs qui, si on leur laisse libre cours, sans leur assigner de mesures et de démarcations, aboutissent donc à ce qu'on appellerions la loi de la jungle. Et cette loi de la jungle aboutit très rapidement donc à l'épuisement des ressources, ce qui n'est évidemment dans l'intérêt de personne. Alors, c'est pourquoi donc le texte continue donc Xian Wang, E qi luan ye, Gu zhi li yi yi fen zhi, yi yang ren zhi yu, ge ren zhi qiu. Donc, les rois de l'Antiquité, donc, E qi luan, c'est-à-dire avaient une aversion, littéralement, il haïssait donc le désordre ou le chaos, et c'est pourquoi donc ils établirent les rites et le sens du juste ou le sens moral pour introduire donc une fen, là aussi donc une répartition, de manière à yang ren zhi yu, c'est-à-dire littéralement à nourrir ou à apporter donc une satisfaction donc au désir des humains et à répondre donc à leur quête ou à leurs exigences. Alors shi yu bi bu qiong hu wu, wu bi bu qu yu. Et de cette façon les désirs nécessairement donc n'ont plus épuisé les biens et les biens n'ont plus été forcés littéralement de fléchir sous le poids des désirs, de sorte que liang zhe xiang chi er zhang shi li zhi suo qi ye. Et les deux, c'est-à-dire les biens et les désirs, ont pu se développer en xiang chi, c'est-à-dire en se soutenant mutuellement. Telle est donc l'origine des rites. Donc ici, vous avez quelque chose d'assez remarquable, c'est-à-dire donc une explication de l'origine des rites ou de la culture ritualiste par une analyse anthropologique donc des débuts de l'humanité. C'est-à-dire, c'est pour justement introduire des fens, c'est-à-dire des démarcations et un principe de répartition que donc les sages rois de l'Antiquité ont introduit les rites comme unique moyen de justement parer à cette guerre ou ce conflit permanent que nous appelons donc la loi de la jungle. Alors, certaines sections du Xunzi de cet ouvrage, donc attribué à Maître Xun, et en particulier ce chapitre 19, consacrée au rite se retrouve quasiment mot pour mot dans les traités rituels dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire, par exemple, le traité des rites, le Li Ji, et cet autre traité qui porte le nom de traité des rites de Tai l'Ancien, Ta Tai Li Ji, hein, qui tous datent de ce début de l'ère impériale. Alors, nous avions vu la dernière fois ce passage du Ta Tai Li Ji, c'est-à-dire du traité des rites de Tai l'Ancien. On a ajouté cette mention de Ta Tai, donc du grand Tai ou Tai l'Ancien, pour le distinguer de l'autre traité qui s'appelle tout simplement le Li Ji. Donc le Ta Tai Li Ji a cette section qui porte sur les trois racines ou les trois fondements des rites, Li Sanpen. Alors je rappelle donc ces trois fondements, c'était donc le ciel-terre qui est le fondement de la vie, les Xianzu, donc les ancêtres qui sont le fondement de la famille, et en troisième lieu donc les junshi, c'est-à-dire les princes et les maîtres qui sont donc le fondement de zhi, c'est-à-dire de l'ordre sociopolitique. Et le texte concluait donc gu li shang shi tian xia shi di zong shi xian zu. C'est-à-dire donc, voilà pourquoi c'est grâce au rite qu'on sert en haut le ciel, en bas on sert la terre, qu'on honore les ancêtres et que on respecte, on manifeste du respect pour les princes, les souverains et les maîtres. Et c'est cela qui constitue donc les trois racines ou les trois fondements des rites. Et vous avez au chapitre 19, donc sur les rites, dans le Xunzi, une formulation qui se retrouve quasiment à l'identique, mot pour mot. Donc, dans ces trois fondements des rites, vous aviez donc le ciel-terre, ici Tiandi, les ancêtres Xianzu, et les princes et les maîtres, Junshi. Et j'avais terminé la dernière fois mentionnant le fait que ces cinq, ce qu'on a appelé les cinq grands, c'est-à-dire donc ciel, terre, ancêtres, princes et maîtres, se retrouvent jusqu'à aujourd'hui dans ce culte qui est rendu donc ici, vous avez ces cinq grands. Qui figure donc sur une tablette placée sur un autel. Donc vous avez le tien, le ciel, di, la terre, jun, le prince, qin, donc les parents ou les ancêtres, et shi, les maîtres. Alors vous remarquerez que par rapport donc au texte ancien que nous avons vu, que ce soit donc les traités rituels ou le Xunzi, vous avez une interversion donc du prince et des ancêtres. Dans les sources anciennes, les ancêtres viennent avant, ils arrivent tout de suite après le ciel-terre, alors que ici donc ils sont placés derrière donc les le prince, le souverain. Alors, c'est une interversion qui est sans doute révélatrice des priorités de l'ordre impérial établi, et notamment donc de l'ordre impérial, justement, des époques ultérieures, où, semble-t-il, le prince, c'est-à-dire l'ordre politique, l'emporte sur l'ordre familial. Mais dans les sources anciennes, comme dans les pratiques contemporaines, dont vous avez ici justement un témoignage, vous vous retrouvez ici, donc, le ciel, la terre, le prince, les ancêtres et les maîtres, ici, toujours sur cette tablette. Donc, dans ces sources anciennes comme dans les pratiques contemporaines, on voit cette continuité entre le ciel-terre et l'ordre humain. Alors, cet ordre humain se traduit donc en termes de culte ancestral, c'est-à-dire ce qu'on appelle les xianzu dans les textes, en termes politiques, c'est-à-dire le tun, le prince, et en termes de transmission entre maître et disciple, évoqué par le terme de shi ici, de maître. Donc vous avez non seulement un continuum entre le cosmique et l'humain, sur lequel j'ai beaucoup insisté, mais vous avez également un continuum dans on pourrait dire, le tissu humain, ce qui forme vraiment la cohésion humaine, et dans la culture humaine. Alors, je suis obligée de m'arrêter ici aujourd'hui, mais je rappellerai simplement pour l'instant que si nous prenons le culte ancestral, le culte des ancêtres, je rappelle qu'il a occupé une place centrale dans toute la culture confucéenne chinoise, mais ceci dès la plus haute époque. On peut dire que ce culte ancestral remonte à l'époque des Shang, c'est-à-dire donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Donc nous reviendrons là-dessus la prochaine fois, et en attendant, donc, ce sera l'occasion de penser, d'avoir une pensée pour nos ancêtres. Merci. Merci.